Donc encore merci à toutes et à tous d'être venus. Encore merci pour l'organisation, celles qui l'ont permis. Je remercie aussi ma collègue Camille Souchon qui va gérer l'affichage du diaporama chez vous. Voilà, donc c'est plus moi qui bouge la souris. Donc moi je vais faire une troisième conférence sur une autre thématique qui est cette fois-ci la thématique des ophiolites. Alors ophiolites, programme de terminale spécialité actuellement. Et l'idée c'est de montrer que finalement, dans ce qu'on raconte, en tout cas dans ce que moi je raconte à mes étudiantes et mes étudiants sur les ophiolites, il y a probablement beaucoup de bêtises, probablement beaucoup de choses fausses. Je le sais, je leur dis pas, mais là aujourd'hui je vais leur dire, quoi. Et je suis obligé de leur expliquer que j'ai raconté un peu des bêtises. Donc voilà, j'ai intitulé ça « Les ophiolites de pas si simples fragments de lithosphère océanique ». Alors, une première illustration qui vous montre les différents reliefs mondiaux et notamment les reliefs océaniques. Et ces reliefs océaniques permettent d'appréhender la diversité des contextes qu'on a au niveau des océans. On a des dorsales, de part et d'autre des plaines abyssales. On va trouver aussi des alignements intraplaques comme l'alignement Hawaï-Empereur. On va trouver des arcs insulaires qu'on peut trouver au niveau des Antilles ou au niveau de la fosse des Mariannes ici. Et puis, on a des épanchements intraplaques de grand volume qu'on appelle les plateaux océaniques et qui sont les équivalents des trappes sur les océans. Donc ça, c'est ce qu'on voit déjà rien qu'avec le relief des océans. Et ça, on le sait, hein, Maxime tout à l'heure a parlé des travaux sur la découverte et l'élaboration de la technique des plaques, notamment des travaux de Marie Tarp sur les fonds océaniques. Et on sait depuis l'énoncé de la technique des plaques et la datation des fonds océaniques qu'en place, on n'a pas de fonds océaniques qui sont plus anciens que 180 millions d'années, avec une raison toute simple, c'est que les fonds les plus vieux ont été subductés. Et donc, c'est là que l'objet d'aujourd'hui va prendre tout son intérêt, c'est qu'on trouve au niveau des continents, et notamment au niveau des chaînes de montagnes actuelles et anciennes, la présence d'unités qui ont été reconnues comme des unités appartenant à la lithosphère océanique. Et donc, ces unités, leur diversité et ce qu'on va y observer, va être un objet d'étude privilégié, un laboratoire d'études facile pour étudier les processus qui se déroulent au fond des océans. Et donc c'est ça qui va nous intéresser dans les minutes qui vont suivre. Alors, la question qui va nous animer, c'est quelles informations peut-on tirer de ces ophiolites sur leurs différents contextes de formation et éventuellement sur l'évolution temporelle de la formation de la lithosphère océanique? L'idée, c'est que on a un peu souvent en tête, en tout cas dans ce que moi j'enseigne, souvent j'enseigne, voilà, il y a deux types d'ophiolites, une qui correspond aux lithosphères océaniques formées au niveau des dorsales lentes, et l'autre à la lithosphère océanique formée au niveau des dorsales rapides. Et puis globalement, je fais un petit modèle simple où tout le magmatisme se met en place en même temps. Parfois il y a beaucoup de magma au niveau des dorsales rapides, et parfois il n'y en a pas beaucoup au niveau des dorsales lentes. Et en gros, j'ai deux objectifs à vous montrer dans cette présentation. C'est qu'en fait, les ophiolites, c'est peut-être pas si sûr que ça que ce soit que dorsale lente et que dorsale rapide. Et puis d'autre part, que les processus magmatiques qui se déroulent au niveau de la dorsale, c'est peut-être pas aussi simple que des pulses de magma avec du plutonique et du volcanisme, et qu'on peut avoir des décalages temporels entre la mise en place des différents corps magmatiques. Et pour ça, je vais vous montrer quelques photos qu'on peut trouver, enfin quelques affleurements, et puis quelques travaux qui ont été menés au niveau de l'ophiolite du Chenaillet, puisque c'est un des terrains d'études privilégiés des enseignantes et des enseignants français. Alors, j'ai mis quelques rappels, je peux passer très vite, hein, ça c'est plus des photos, donc extraites de Planète Terre, notamment des articles de Pierre Thomas sur les ophiolites, et puis des articles de Philippe Agard sur l'obduction, pour remontrer l'image qu'on a de la structure de la lithosphère océanique, où on a donc lithosphère, une partie crustale, épaisse d'environ 0 à 8 km, et puis une partie mantellique. Et alors au sommet, on va trouver donc. Alors, ce que je vous montre, c'est le résultat d'études de terrain, c'est le résultat de forage, c'est le résultat de dragage et aussi des données géophysiques. Donc, ce qu'on pense de la lithosphère océanique avec ce modèle qui est celui formé au niveau dorsal rapide, c'est qu'au sommet, on a des sédiments océaniques qui vont pouvoir comporter des sédiments d'origine diogène, par exemple des sédiments siliceux type radiolarite ou autres, des sédiments qui ont une origine hydrothermale, ce qu'on peut appeler des chertes. Ici, par exemple, vous avez des photos de sédiments qu'on peut trouver au niveau de l'ophiolite Dauman, si je dis pas de bêtises, qu'on appelle les terres d'ombre. En dessous, on va trouver des unités qui sont des laves, mais des laves mises en place sous une certaine tranche d'eau. Et la pression due à cette tranche d'eau va faire que les laves vont être mises en place sous forme de ce qu'on appelle des pyrolavas. Et là, vous reconnaissez les structures de basalte en coussin qui forment souvent des tubes et qui sont les marqueurs de cette éruption sous-marine. Ensuite, en dessous, on va trouver une unité qui est une unité très importante, enfin, je vais expliquer pourquoi, qu'on appelle le complexe philomien. Ce complexe philomien est constitué de ce qu'on appelle des dolérites. Les dolérites, c'est l'intermédiaire textural entre le basalte et le gabbro. Le basalte, c'est la roche issue d'un refroidissement rapide en surface. Le gabbro, c'est le refroidissement lent en profondeur. Eh bien, on va trouver des roches qui ont des petits minéraux, mais tous jointifs. Et c'est une texture intermédiaire qui montre un refroidissement un peu plus rapide, enfin, un peu plus lent que ce qui se passe en surface, et à une profondeur intermédiaire. Et ce qui est intéressant ici, c'est la structure que prennent ces dolérites. Elles forment des filons verticaux, et ces filons verticaux sont des marqueurs d'une mise en place dans un contexte extensif. On interprète ces structures-là comme étant liées à l'écartement des plaques, qui va induire une technique extensive et une remontée verticale de magma. Et ça va être hyper intéressant parce que le fait de trouver du complexe filonien dans des ophiolites anciennes va être un marqueur d'une mise en place de magma dans un environnement extensif et donc potentiellement d'une technique des plaques qui serait analogue à ce qu'on peut observer aujourd'hui. En dessous, on va trouver des gabbros, alors des gabbros dont les cristaux sont orientés dans toutes les directions, ce qu'on appellera des gabbros isotropes, avec, vous le voyez sur la photo ici, des tailles de grains qui peuvent être extrêmement variables sur une toute petite échelle. On peut avoir des choses centimétriques comme des choses millimétriques. En dessous de ces gabbros, on va trouver d'autres gabbros qui, cette fois-ci, forment un litage magmatique, alors ce qu'on appelle une texture de cumula, où vous avez des niveaux sombres très riches en pyroxène et des niveaux blancs très riches en plagioclase et des proportions intermédiaires dans la colonne avec des tailles de grains qui varient. Tout ça, on en rediscutera, je vous reparlerai un peu de l'ophiolite. Ensuite, on va trouver le contact entre les gabbros et la péridotite, c'est-à-dire le contact entre la croûte et le manteau, donc un moho, qui est ici clairement un moho pétrologique, d'accord? Au-dessus, on a la croûte, en dessous, on a le manteau. Et puis, en dessous, on va trouver des péridotites, d'accord? Donc, la roche majoritaire du manteau. Et dans ce cas-là, on a des péridotites de type Harzburgite. Alors, je vous ai remis, après une petite explicitation. Donc, avant de rentrer plus dans les détails, je vous ai détaillé le modèle qui est la lithosphère océanique formée au niveau d'une dorsale rapide, où on a une croûte océanique qui est épaisse, qui est continue. Et on va opposer ça à un modèle avec une lithosphère océanique mise en place au niveau d'une dorsale lente, où cette fois-ci, on a une croûte océanique qui va être discontinue, où on va pouvoir avoir l'absence de certaines unités, pas toujours du complexe philomien, pas toujours des gabbrolités, et où la mise à l'affleurement du manteau va être responsable d'un phénomène de serpentinisation. D'accord? Donc, on va trouver des serpentinites, puisque le manteau au niveau de ces lithosphères-là pourra être directement à l'affleurement. Alors, je vous ai parlé donc de péridotite. Si je reviens ici, vous voyez que les péridotites, on écrit péridotite, mais c'est pas les mêmes péridotites. Alors, des péridotites, il en existe différents types. Je vais pas re-rentrer, enfin, je vais pas rentrer dans tout le détail de ce que j'ai écrit, mais vous avez ici une photo d'une péridotite et une péridotite, trois minéraux cardinaux que sont l'olivine, l'orthopyroxène et le clinopyroxène. La péridotite qui contient ces trois minéraux, c'est ce qu'on appelle la lherzolite. D'accord? Cette lherzolite, ce que vous avez en photo ici, c'est celle qu'on va trouver au niveau du manteau, en tout cas dans ce modèle-là, au niveau du manteau des lithosphères océaniques formées au niveau des dorsales lentes. Et puis, vous avez des péridotites qui vont contenir uniquement en minéraux cardinaux olivine et orthopyroxène. Ces péridotites-là s'appellent des harzburgites et c'est le manteau qu'on rencontre, enfin, qui est en tout cas proposé dans ce modèle-là, de lithosphères océaniques mises en place au niveau d'une dorsale rapide. Alors, dans les prérequis un peu pour discuter un peu plus de tout ça, je voudrais aussi faire un petit point sur les différents contextes océaniques qu'on peut retrouver. Alors, on parle beaucoup de dorsale quand on parle de phiolite, hein. La dorsale, c'est une limite de plaque en divergence au niveau de laquelle on met en place de la croûte océanique. Mais on peut trouver d'autres types de croûte océanique, d'autres types de contextes de mise en place de croûte océanique. Vous avez par exemple ici ce qu'on appelle, alors, soit des plateaux océaniques, les Kerguelen, d'ailleurs, je vous ai montré un grand épanchement magmatique, un équivalent océanique de ce que sont les trappes. Et puis, on a tout ce qui va être les points chauds océaniques, type Hawaï, type La Réunion, où on va former aussi de la croûte océanique, mais qui va nécessairement avoir une structure et une composition différentes de celles qu'on a au niveau des dorsales. Autre contexte, c'est les marches passives. Au niveau des marches passives, on va avoir ce qu'on appelle les zones de transition océan-continent, au niveau de laquelle se fait le relais entre la lithosphère continentale et la lithosphère océanique. On est toujours au sein d'une même plaque ici. Eh bien là, on va avoir une structure de lithosphère océanique qui va être différente. autre contexte de formation de lithosphère océanique, vous allez avoir des arcs volcaniques. Quand vous avez une subduction océan-océan, par exemple au niveau des Antilles, vous allez former un épaississement de la croûte océanique qui est lié au magmatisme de subduction. Associé à ces subductions, vous avez aussi ce qu'on va appeler des bassins arrière-arcs. Bassins arrière-arcs, si vous prenez ce qui se passe au niveau des Philippines, on a une subduction avec un fort pendage à l'arrière de l'arc sur la plaque chevauchante, on a de l'extension, et cette extension peut s'accompagner de mise en place de magmatisme, soit ça reste continental, soit on a une dorsale. D'accord ? On pourrait prendre pour nous l'exemple de la Méditerranée. Autre contexte, un peu moins commun, c'est qu'on peut aussi avoir de l'extension et la mise en place de magma en avant de l'arc, c'est ce qu'on appelle un bassin avant-arc. Donc en fait, quand on pense au contexte de mise en place de la lithosphère océanique, bien évidemment, les dorsales, c'est le contexte majeur, le contexte qu'on aborde le plus, mais il y a d'autres contextes de production magmatique. Et donc, vous me voyez venir, c'est qu'a priori, si je vous présente ces contextes-là, c'est qu'on va être capable de distinguer des ophiolites qui reflètent tous ces contextes-là. Et la vraie question, ça va être, finalement, dans la quantité d'ophiolites qu'on a, quelle est la proportion de chacune des contextes qu'on a ici? Et la question ne va pas être si simple, enfin, la réponse ne va pas être si simple. Alors, déjà, on voit deux choses différentes, c'est que d'une part, on a des contextes qui vont être non liés à la subduction, et des contextes qui vont être liés à la subduction. Ça, c'est ce qu'on peut dire de ce document. Je vous le remontrerai en fin de présentation. Alors, je ne vais pas me lancer dans un historique très complet sur la notion d'ophiolite, mais le terme ophiolite a été développé par le géologue Alexandre Brongniart dans les années 1813. Et initialement, l'ophiolite désignait ce que nous, on appelle les serpentinites. Ophiolite, vous retrouvez le terme grec ophis, qui veut dire serpent. Et vous avez ici une image d'une serpentinite prise sur la lithothèque de l'ENS de Lyon. Vous voyez cet aspect un peu peau de serpent qu'on retrouve sur la roche. Après, cette notion-là a été étendue à l'ensemble des roches qu'on va retrouver dans ces ensembles-là et qui reflètent la composition et la structure de la lithosphère océanique. Alors, il y a beaucoup de textes, comme ça, je vais lire et je vais analyser, donc écoutez plutôt ce que je dis, ne cherchez pas à lire tout ce que j'ai écrit. Ça, c'est le texte qui a été publié dans les années 1970, donc on est en 72, c'est-à-dire qu'on est 4 ans après le premier modèle de tectonique des plaques. Et il y a une conférence qui se réunit, c'est la Penrose Conférence, et qui va donner une définition de ce qu'est une ophiolite. Et qui va donner une définition de ce qu'est une ophiolite en se basant sur deux grandes ophiolites mondiales, l'ophiolite d'Oman, qui est sur la marge arabique, et l'ophiolite de Troudos, qui est l'ophiolite de Chypre, qui est une ophiolite qui est assez connue, notamment parce qu'elle contient des minéralisations des anciens fumeurs noirs qui ont exploité pour le cuivre. Alors comment, à cette époque-là, on définit une ophiolite? Eh bien, on définit une ophiolite comme un assemblage caractéristique de roches mafiques et ultramafiques. Alors, mafique, ça veut dire quoi? Mafique, c'est ma pour magnésium, fique pour fer. Donc, c'est des roches riches en fer et en magnésium. Les synonymes, ce serait basique et ultra-basique. Donc, basique, des basaltes et des gabbros. Ultra-basique, ultra-mafique, des péridotites. Donc, on retrouve, en fait, déjà ce qu'on a en tête, c'est-à-dire l'idée croûte et manteau lithosphérique. Et il ne devrait pas être utilisé comme nom de roche ni comme unité lithologique lors de cartographie. Dans une ophiolite complète, le type de roche présent dans la séquence est du bas vers le haut, un complexe ultramafique avec une proportion variable de Hartzburgite, de l'herzolite et de dunite. La dunite étant la péridotite composée exclusivement d'olivine. Et, alors ça c'est aussi intéressant, même si aujourd'hui je ne développerai pas tout ça, on y observe des fabriques tectoniques. Ces fabriques tectoniques, elles vont être le reflet de la mise en place de ces ophiolites. On a vu au début de la présentation qu'on trouvait ces ophiolites dans les chaînes de montagne. C'est des unités qui ont été transportées. Ensuite, on va trouver un complexe gabbroïque, classiquement avec texture de cumula contenant des péridotites, des pyroxénites, et souvent moins déformé que le complexe ultramafique. Alors, cumula, ça veut dire quoi? En gros, cumula, pour faire simple, ce sont les roches qui vont se déposer au fond des chambres magmatiques. D'accord? C'est une accumulation de minéraux magmatiques, comme les gabbrolités, c'est l'interprétation qu'on en a. Ensuite, on aura un complexe filonien mafique, et puis un complexe volcanique mafique, souvent sous forme de pilolava, donc on retrouve les basaltes en coussin. Et associé à ça, on va trouver un certain nombre d'unités, notamment des unités sédimentaires et d'autres unités alors, qui ont leur importance, mais qu'on ne va pas développer aujourd'hui. Mais par exemple, on trouve des ensembles de chromite, qui est un spinel qui contient du chrome, qui est exploité dans certaines minéralisations. On nous dit ensuite dans ces définitions-là que les contacts entre les différentes unités sont fréquents. Il peut manquer des parties. Et là, finalement, on reboucle sur ce qu'on a vu de la structure des deux lithosphères océaniques du début. Et donc une ophiolite peut être incomplète, disloquée ou métamorphisée. Et là, il y a une précision qui est intéressante, c'est bien que les ophiolites soient généralement interprétés comme de la croûte océanique ou du manteau supérieur, et ou du manteau supérieur d'ailleurs, l'utilisation de ce terme devrait être indépendant de l'origine supposée des roches. Et c'est là où on va commencer à voir déjà un peu quelques oppositions. Alors, quels sont les points qui ont posé problème dès l'énoncé de cette définition-là? Ben, déjà, il y avait la question de dire, finalement, on parle de complexe filonien, on parle de continuité d'unité, et on ne le retrouve pas dans toutes les ophiolites. Les ophiolites alpines, qui ont été les unités, les ophiolites historiquement étudiées, il n'y a pas de vrai complexe filonien. Alors ça, aujourd'hui, pour nous, finalement, une réponse qui est assez facile à donner, qui serait de dire, mais dans les dorsales lentes, on n'a pas une production magmatique continue, donc on n'a pas tous les corps magmatiques, donc ça, c'est pas problématique, c'est juste le reflet de la diversité de dorsales et de leur taux d'expansion. Alors, il y a un autre point, c'est la question de la mise en place des ophiolites. Le terme obduction, il a été défini dans les années 71, et finalement, on disait que l'obduction, c'est ce qui, dans le cadre de la technique des plaques, explique la mise en place de cette nappe ophiolitique sur les continents. Mais aujourd'hui, on n'observe pas vraiment ce processus-là, donc c'est difficile de parler d'un processus dont on n'a pas d'analogue actuel. On n'a pas d'ophiolite issue de l'océan Atlantique. Ça, je sais pas si c'est toujours vrai, il y a quand même des choses qu'on peut trouver dans les Antilles, mais bon, ça c'était un point de position. Et alors, plus intéressant, et là, alors, je vais faire un petit point de base, c'est que dans l'étude du magmatisme, il y a un point qui est très important, c'est la géochimie. Et au niveau des dorsales, la géochimie des roches qu'on trouve, c'est la géochimie de la série toléitique. Les basaltes formées au niveau des dorsales sont toléitiques, les gabbros sont toléitiques. Et bien, dès les années 70, il y avait des géochimistes qui avaient étudier certaines roches qui avaient été collectées au niveau des ophiolites et qui, en les mettant dans des rames géochimiques, avaient eu le résultat que ces roches-là n'appartenaient pas à la série toléitique, mais appartenaient à la série calco-alcaline. Et calco-alcaline, dans des roches de nature océanique, c'est généralement le témoin du magmatisme associé à la subduction. Et donc, dès cette époque-là, certains disaient, mais non, en fait, c'est pas formé au niveau des dorsales. Faut forcément qu'il y ait une contribution en zone de subduction. Alors, il y avait des oppositions assez fortes, disant oui, mais est-ce que les études géochimiques sont rigoureuses, notamment parce que on peut en géochimie ici utiliser différents éléments, et une partie des éléments qui étaient utilisés étaient des éléments mobilisés par des circulations de fluide. Donc, est-ce que le signal géochimique qu'on obtenait était vraiment représentatif? Voilà, c'était assez critiqué. Mais on verra que les choses ont été refaites depuis et que ça reste relativement. Donc, déjà dès le début, l'idée potentielle qu'au niveau des ophiolites, ben, il y a une contribution des subductions. Et ça a donné dès les années 75 un concept qui est, quand on lit les publis sur les ophiolites, finalement un des concepts dominants dans la description des ophiolites, qui sont des ophiolites liées ou non à des zones de subduction. Et donc on parle de supra-subduction zone ophiolite. D'accord? Et je vais vous en reparler après, notamment parce que je prends l'exemple de l'ophiolite d'Omer. Alors, bien évidemment, ceux qui étaient plutôt les tenants de l'origine purement dorsale océanique disaient, non, mais c'est facile, on peut faire du calco-alcalin, suffit que de l'eau percole dans les roches. On les fait refondre. Si on fait de la fusion hydratée, on fait du calco-alcalin, on peut très bien faire ça au niveau des dorsales. Donc voilà, c'était un petit peu la guéguerre entre les tenants d'une vision un peu plus subduction et une vision purement dorsale. Et je vais vous montrer un peu comment les idées ont évolué. Donc voilà, il y avait des questionnements sur les contextes de formation. Alors, dans ce que nous on enseigne, enfin en tout cas dans ce que moi j'enseigne, je ne sais pas ce que les collègues font ailleurs ou ce que vous avez en cours. Enfin, pour les étudiants qui sont dans la salle, je sais ce que vous avez en cours parce que c'est un peu de ma faute, mais ben, on a un peu cette vision avec ce qu'on appelle le modèle HOT et le modèle LOT, qui est un modèle qui est notamment développé par une école montpelliéraine, hein, montpelliérain, c'est notamment Adolphe Nicolas qui a développé cette classification-là, où on oppose des ophiolites qui ont ici donc une croûte océanique épaisse et un manteau de type Hartzburgite, avec donc ici croûte océanique épaisse, les basaltes, le complexe filonien, gabbro-isotrope, gabbro-lithé. Et puis des ophiolites pour lesquelles la croûte océanique est moins épaisse, donc une production magmatique moindre. Et puis un manteau de type lherzolite. D'accord? Donc HOT, Hartzburgite, ophiolite type, avec comme exemple majeur l'ophiolite d'Oman ou l'ophiolite de Troodos. Et LOT, lherzolite, ophiolite type, les exemples majeurs, ce sont les ophiolites alpines, comme l'ophiolite du Chenaillet. Et puis, ben, comme la nature est compliquée, ben, quand on a les deux, on fait des LOT, LHOT, pour lherzolite, hartzburgite, ophiolite type. Donc ça, c'est le modèle enfin, c'est ce qu'on trouve beaucoup. Moi, je sais que j'enseigne pas mal ces choses-là. Mais c'est assez critiqué. Alors, je vais aller quand même plus loin dans les analogies. Comment est-ce qu'on interprète les ophiolites Maintenant, d'un point de vue processus magmatique. Alors, si je prends les dorsales rapides, là, vous avez un schéma extrait d'un des manuels classiques, le comprendre et enseigner la planète Terre. En fait, l'idée qu'on a, c'est que bon, ce qu'on voit reflète la structure de la croûte océanique, qui elle-même reflète la dynamique de l'accrétion au niveau de la dorsale. On a en surface des épanchements de lave qui font les pyrolavas, un complexe filonien qui constitue les zones d'alimentation des pyrolavas en surface, et puis au-dessous, dans le cas de dorsale rapide, une grande chambre magmatique dans laquelle on a des phénomènes convectifs, avec notamment du brassage et du dépôt en base de chambre de minéraux qui vont constituer les cumulats magmatiques que sont les gabbro lithées. Au sommet, on a plutôt les gabbro isotropes, et à la base, on a le manteau. Et dans la vision qu'on a de ces processus-là, le manteau qu'on a dessous refléterait le résidu de fusion. C'est-à-dire que si ici on a de la harzburgite, c'est parce qu'initialement on avait de la lherzolite, que cette lherzolite a fondu et que la fusion partielle de cette lherzolite a appauvri en éléments chimiques contenus dans certains minéraux et en priorité dans le clinopyroxène. Donc initialement on part d'une lherzolite. Dans le cas de dorsale rapide, on la fond beaucoup. Alors pourquoi? Parce que extension, expansion, enfin, vitesse de divergence importante, remontée rapide, décompression adiabatique avec taux de fusion de 25%, on prend une lherzolite, on obtient un liquide basaltique, le résidu va être une péridotite dans laquelle il n'y a plus de clinopyroxène, harzburgite. Dans le cas des dorsales lentes, on a vu qu'il y avait une croûte océanique qui était discontinue. Ben là, l'idée, c'est que, en gros, on étire moins vite, la remontée se fait moins rapidement, la décompression adiabatique est moins importante, on a des taux de fusion de l'ordre de 15%, on produit un même magma basaltique, mais la fusion ayant été moindre, la péridotite source est moins appauvrie et le résidu est lherzolitique. Voilà un peu comment on utilise les ophiolites pour proposer des modèles de processus magmatiques au niveau de la dorsale. Ça, c'est deux petits schémas qui vous montrent l'image des chambres magmatiques au niveau des dorsales. Donc, en haut, c'est les hôtes, en bas, c'est les lottes. En coupe perpendiculaire à l'axe de la dorsale, ben, au niveau des dorsales rapides, on imagine une chambre magmatique toujours cristal, mais qui va être donc de volume important et continue le long de l'axe de la dorsale. Ça, c'est une coupe qui est parallèle à l'axe de la dorsale. À l'inverse, on a des dorsales pour lesquelles les vitesses d'expansion sont moindres. Alors, vitesse rapide, c'est 11 à 16 cm par an. Dorsale lente, on est à moins de 4 cm par an. Et là, on voit qu'on a une croûte océanique qui est discontinue. Là, on a de la serpentinite qui affleure, quelques poches de magma. Ici, c'est un peu plus continu. Et le long de l'axe de la dorsale, on a des segments qui vont produire du magma et d'autres qui n'en produiront pas. Et ce qu'on sait même de la lithosphère océanique en place, c'est qu'on va même actuellement sur certaines dorsales, comme les dorsales ultra-lentes au niveau de la dorsale sud-ouest indienne, comme des zones totalement amagmatiques où on voit surtout des structures tectoniques et très peu, voire pas du tout, de roches volcaniques en surface. Donc on a voilà, une diversité de structures qui reflètent l'accrétion au niveau de la dorsale. Sauf que ça, ben c'est assez critiqué. Et il y a toujours des points qui posent problème quand on cherche à comparer avec ce qui se passe vraiment dans les océans actuels, quand on compare aux résultats de forage, et puis quand on regarde un peu le détail de ce qui se passe ailleurs. Alors par exemple, bah, il y a dans les problèmes qui existent, c'est que certains forages ne vont pas trouver d'analogue ophiolytique. C'est-à-dire qu'on va avoir des structures, quand on fore des structures de croûte océanique, qu'on ne retrouve pas au niveau des ophiolites. Donc ça questionne pourquoi est-ce qu'ici on trouve cette structure-là et pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas les ophiolites. Si on trouve un ophiolite, est-ce que les ophiolites sont vraiment des analogues de ce qu'on a au niveau de la lithosphère océanique? Alors il y a aussi d'autres points qui sont un peu différents, c'est qu'on parle beaucoup des pyrolavas, et on leur donne une place très importante, mais il semblerait qu'au niveau de dorsale rapide, l'expression des laves en surface, ce soit majoritairement des coulées classiques et des lacs de lave, plutôt qu'une mise en place sous forme de pyrolavas. Or, dans tout ce qu'on voit de la structure proposée de pyrolavas, on parle beaucoup de pyrolavas. Autre point, alors, qui peut être un peu problématique, c'est que quand on fore et qu'on échantillonne le manteau au niveau des dorsales lentes, la nature du manteau échantillonné semble être majoritairement harzburgitique. Donc là, problème, parce que nous, on était sur ce modèle qui fonctionnait bien, de on fond très peu, le résidu est une lherzolite, donc on avait le fil de type lotte. Bah, a priori, même dans les océans à dorsales lentes, on aurait des harzburgites. Et donc, les lherzolites qu'on pourrait peut-être trouver au niveau des ophiolites seraient peut-être des lherzolites secondaires issues de refertilisation, comme ce qu'on connaît dans certains corps montyliques, comme les temps de l'herbe dans les Pyrénées. Autre problème, et ça on le savait déjà, j'en ai parlé, c'est que si vous avez dans certaines ophiolites, notamment au niveau de l'ophiolite de Mans, vous allez vraiment trouver des roches qui ont une affinité géochimique de roches, de zones de subduction. Ça, c'est quand même problématique de l'expliquer purement par un processus de Dorsal. Et, alors ça c'est un peu plus compliqué, mais la relation source-liquide-résidu entre le manteau qu'on observe et les roches magmatiques qu'on observe sont plus compliquées que ce qui est proposé. Alors bon, ça c'est ce que je vous ai dit. Les tenants plutôt de l'hypothèse pure dorsale disent on peut rester sur de la dorsale si on a uniquement d'interaction hydrothermale et de la refusion de roches avec de l'eau de mer. Bon, ça c'était pour nuancer, je vous montrerai un peu l'évolution qu'on peut avoir. Maintenant, je vais aller faire un petit tour de un petit peu de terrain sur deux grandes ophiolites pour essayer de discuter ce qui se passe en termes de processus au niveau de ces ophiolites. La première, c'est l'ophiolite du Chenaillet, qui est l'ophiolite qu'on a pas très loin de chez nous et sur laquelle j'imagine une grande majorité d'entre vous sont un peu très en terrain. Alors l'ophiolite du Chenaillet, elle est située ici, on est dans les Alpes, entre la zone briançonnaise et la zone hydropiémontaise. C'est ce qu'on appelle une clip, c'est-à-dire une nappe de roche qui a été transportée tectoniquement, et elle fait à peu près 1 km d'épaisseur. Elle a été datée autour du Jurassique, des datations par biostratigraphie et des datations absolues aux alentours de 160 millions d'années assez récentes. Et c'est l'exemple classique du modèle de type LOT. On interprète le Chenaillet comme étant le résultat de la mise en place de roches au niveau d'une dorsale lente. Alors on va essayer de regarder un peu ce qu'on trouve et discuter de ces aspects-là. Alors d'ailleurs, c'est un panorama classique au niveau du Chenaillet, au niveau du lac des Sarailles. On voit bien déjà, rien quand on regarde les couleurs et le relief, la diversité de roches. Et cette diversité de roches, on voit donc là la fameuse cabane des douaniers. Ici, on a un corps qui est ce qu'on appelle un plagiogranite ou une albitite, des serpentinites. Et puis là, où on a un peu plus de relief. Quand c'est gris, c'est des métagabbros. Et quand c'est noir, on est plutôt sur des basaltes et des brèches de basalte. Alors, je vais partir de la base, puis je vais monter vers le sommet pour faire un peu une revue de ce qu'on voit. Et essayer de discuter d'une part des relations géométriques qui sont aussi des relations temporelles. D'accord? Quand on est fait de la géologie, les principes de recoupement, ça traduit aussi une histoire de l'affleurement. Alors, on va avoir des roches qui est du manteau, mais ce manteau ne ressemble pas à la belle péridotite que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est probablement une péridotite de nodule. C'est une péridotite qui a été transformée par une réaction hydrothermale, qui est une réaction de serpentinisation. La péridotite mise à nu au fond de l'océan était chaude. On a des phénomènes de convection hydrothermale et les minéraux de la péridotite vont réagir avec l'eau et donner un minéral qu'on appelle la serpentine ou les serpentines, puisqu'on va trouver toute une famille de serpentines au niveau du Chenaillet. Ça produit aussi d'autres minéraux, des hydroxydes de magnésium comme la brucite, la magnétite et puis le fameux dihydrogène avec les réactions Fischer-Tropsch, l'apparition de la vie, pour des choses que vous connaissez. Alors, parfois, ces serpentinites sont bréchifiées, et ces brèches de serpentinites avec des matrices, des liants qui sont calcaires, on appelle ça des ophicalcites. Je vous ai mis ici en la main ce que ça donne. Vous voyez, quand on voit ça, le péridotite, on a un petit peu du mal. Alors, parfois, quand on regarde dans la masse, on retrouve des minéraux qui sont des reliques de la péridotite initiale, mais c'est pas toujours évident de reconnaître la péridotite. Alors, au-dessus de ces péridotites, on va trouver, alors quand je dis au-dessus, les corps sont discontinus, mais on va trouver des gabbros. Donc là, vous reconnaissez les gabbros. On retrouve les minéraux blancs qui sont les plagioclases, les minéraux ici plutôt gris qui sont les pyroxènes. Et on voit ici, sur cette photo du bas, une couronne d'un minéral qui est plutôt noir, qui va être l'apparition d'hornblende. Et la texture qui ici est en couronne signe une réaction métamorphique. Et on forme ici donc une amphibole métamorphique. Je vais revenir dans la suite sur les processus qui se déroulent. Alors ici, vous avez une autre image d'un gabbro. Et vous voyez ici que sur ces gabbros, donc on a des patchs de taches vertes, voire des veines de minéraux verts. Et là, on voit apparaître tous les minéraux classiques de l'hydrothermalisme. Ici, des veines d'épidote, et là, les mélanges chlorite, actinote, épidote. Alors, ces gabbros bon, vont souvent être un peu isotropes, comme on trouve ici, mais on va trouver aussi localement des gabbros qui présentent une déformation, qui présentent un litage, qu'on peut appeler une foliation magmatique. Et ces gabbros-là, on les appelle des flasers gabbros. Ce ne sont pas des gabbrolités, hein, ce n'est pas des cristaux qui sont tombés au fond de la chambre magmatique. Là, c'est vraiment des gabbros qui ont été, alors qu'ils étaient encore chauds, déformés de manière ductile. Donc, on a une foliation classique dans des roches métamorphiques. C'est la déformation qu'on peut observer. Ces gabbros, leur géochimie, c'est une géochimie qu'on appelle de type morbe, c'est-à-dire mid-oceanic rich basalt. Ce sont des gabbros toléitiques. On a des roches typiquement, enfin géochimiquement, identiques à celles qu'on place au niveau des dorsales. Alors l'étude en la mince, macroscopiquement, mais l'étude en la mince permet de voir un peu les différents minéraux. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a donc le pyroxène et que le pyroxène était au contact du plagioclase, et qu'entre les deux se forme une couronne d'un minéral qui est la hornblende. La hornblende, c'est une amphibole, c'est donc un minéral hydroxylé. Le pyroxène ne contient pas d'eau, le plagioclase ne contient pas d'eau. Et donc, pour qu'on ait cette réaction-là, il faut que plagio et pyroxène aient réagi ensemble et avec de l'eau. Et ça, c'est un marqueur de l'entrée d'eau dans la roche. Et dans ce contexte-là, d'où vient l'eau? Eh bien, on est sur l'eau qui vient de l'océan. D'accord? On pourrait le voir aussi avec la modification de la composition des plagioclases qui deviennent plus sodiques lors de ces processus-là. Donc, ce qu'on voit, c'est la mise en place d'une couronne de Hornblende. Et puis, on voit apparaître des mélanges de minéraux. Alors, là, la main se... peut-être pas très bien ici, mais des mélanges qui sont chlorite, acnote et pilote. Et à partir de ça, on peut reconstituer ce qu'on appelle des chemins pression-température, où on voit que ces roches-là montrent un refroidissement, avec en même temps la formation de paragène hydroxylé. Et donc, quel processus géodynamique peut expliquer et ce refroidissement et cette entrée d'eau dans le système? Eh bien là, on est sur ce qu'on connaît actuellement, ce qu'on voit au niveau des fumeurs noires, c'est-à-dire les circulations hydrothermales avec l'entrée d'eau de mer froide qui va refroidir les roches, se réchauffer, interagir avec les roches et ressortir par des phénomènes de convection. Ensuite, dans ces gabbros, on va trouver une série de filons. Alors attention, c'est pas un complexe filonien, c'est pas comme tout à l'heure des filons qui sont tous collés à une grande unité massive, mais on va trouver à plusieurs endroits des filons qui vont avoir des tailles différentes, qui recoupent les gabbros. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que ces filons, c'est du, alors ce qu'on appelle la dolérite, hein, on en a parlé tout à l'heure, c'est exactement la même chimie que les gabbros. Et par contre, vous voyez qu'ils recoupent les gabbros. Donc s'ils recoupent les gabbros, ces filons sont forcément postérieurs. Alors un gabbro, c'est une roche plutonique, c'est un refroidissement qui va être lent en profondeur. Une dolérite ici, c'est un refroidissement qui va plutôt être assez rapide, pas trop loin de la surface. Ça, ça veut nécessairement dire qu'on a un magmatisme en deux temps. C'est-à-dire que d'abord, on a mis en place un magma dans des conditions de haute température en profondeur, et qu'ensuite, les conditions de température ont baissé, alors soit les roches ont beaucoup refroidi, soit, à la faveur de la tectonique extensive, on a pu faire remonter ces gabbros, et on a une deuxième venue magmatique qui recoupe. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ça montre qu'a priori, déjà, le magmatisme, ben, c'est pas une vision simple de j'ai une dorsale, il y a du magma qui sort, il y a les plutons en bas, les laves en haut. A priori, ici, il semble que ce qui est plutonique soit plus ancien que ce qui est volcanique. Il y a même d'autres arguments encore plus forts que ça. Alors, on a des unités qui sont bon, un peu anecdotiques, mais quand même intéressantes. C'est que dans ces ophiolites, on peut trouver des unités qui sont beaucoup plus blanches, beaucoup plus leucocrates, qu'on appelle des, alors un peu abusivement, des plagiogranites, parce que si vous allez au chenaillé, on est plutôt sur une albitite, il y a beaucoup de plagioclase, mais il n'y a quasiment pas de quartz. Donc c'est plutôt une albitite qu'un plagiogranite. Et ces unités-là ont des compositions qui sont plutôt acides. Et leur origine, ça c'est intrusif dans les serpentinites, et leur origine est discutée. Est-ce que ces unités-là sont issues de la différenciation, c'est-à-dire de l'évolution physico-chimique des magmas mis en place à la dorsale, qui refroidissent, qu'on va vers des compositions de plus en plus acides, ou est-ce que c'est de la refusion de corps gabbroïques qui étaient chauds et qui, quand l'eau a percolé, vont pouvoir refondre? D'accord. Donc, ce que c'est de la refusion de croûte océanique, voilà, il y a des discussions, mais c'est des choses assez classiques dans les ophiolites de trouver ce type de roche. Au-dessus, on va trouver des basaltes en coussin. Alors, on parle souvent de basaltes en forme de boule, mais la vraie forme, c'est vraiment les tubes. Et ici, vous voyez un peu les stries de progression de la lave. Ça, c'est le collet vert, qui est un des affleurements les plus célèbres du chenaillé, qui sont des piles au lava qui ont été verticalisées. Vraiment cette forme très jolie. Alors, j'ai mis plein de photos. Ici, vous avez des piles en section. Vous voyez que la forme est totalement ronde et qu'on voit une structure qui s'évase vers le sommet. Ça, c'est ce qu'on appelle le pédoncule du pilolava. C'est un indicateur de la base de la série et ici du sommet de la série. C'est ça qui permet de discuter du fait qu'au chenaillé, on est basculé, par exemple, certaines unités. Et ce qu'on trouve encore comme marqueur, c'est que dans la périphérie de ces pilolava, on peut trouver un certain nombre de structures. Alors ici, c'est en plus dégagé par l'érosion, donc c'est très joli. C'est des petites billes de minéraux hydrothermaux, par exemple des zéolites ou la calcite, qu'on appelle, alors j'ai entendu parler de variolite, classique par exemple dans les galets de la Durance. Et ça aussi, c'est des marqueurs de l'interaction hydrothermale en périphérie du pilolava. Quand l'eau à 3 degrés réagit avec la lave à 1200 degrés, on va former sur le cortex ce type de structure. Et là, l'érosion est plus résistante. Et donc, on a vraiment un peu comme des perles qui sont sur la périphérie du pilolava. On va aussi trouver au chenaillé des roches qui sont des brèches de basalte, qui sont interprétées comme étant de la fragmentation, d'accord, notamment lors des circulations d'eau, des basaltes mises en place. parfois parler de hyaloplastie, de choses comme ça. Alors, ce qu'on trouve au chenaillier, qui permet de préciser un peu l'architecture de ce qui se met en place à la dorsale, c'est que là, par exemple, vous avez une photo, et sur cette photo, vous voyez en bas une unité qui est très noire, noire brillante, et en haut une unité bréchique qui est un peu plus mate. Et ce que vous voyez, c'est en haut des brèches de basalte, et en bas de la serpentinite. Les basaltes, ça se met en place en surface. Si en dessous des basaltes, j'ai de la serpentinite, c'est que la surface, c'était de la serpentinite. Donc là, on a un argument qui montre qu'au niveau de ces anciens fonds océaniques, le manteau était directement à l'affleurement. Alors après, il y a aussi d'autres arguments qui sont intéressants, c'est la déformation. Par exemple, on voit que les basaltes sont très peu affectés par la déformation, alors que les serpentinites et les gabbros sont plus affectés. Et puis, il y a d'autres unités qui sont cartographiées comme des sédiments, notamment des sédiments, alors des choses type ophicalcite ou d'autres types de sédiments. Et là, il se passe quelque chose d'intéressant, c'est que les gens qui ont étudié ces brèches observent dans les brèches, donc dans les brèches sédimentaires, hein, c'est une brèche sédimentaire formée en surface, il y a du relief, de l'altération, et on a des blocs qui vont tomber. Et bien, dans certaines brèches, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des éléments de serpentinite, et on trouve des éléments de gabbro, mais on ne trouve pas d'éléments de basalte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, a priori, au moment où on a formé ces brèches en surface, les seules roches qui étaient à l'affleurement, c'était les gabbros et c'était les serpentinites. Ce qui est encore un argument pour montrer que le magmatisme s'est fait en deux temps. Une première phase de magmatisme lors de laquelle on n'a que des gabbros en profondeur qui vont se retrouver par la tectonique mise en place en surface. Et seulement après, on va trouver une mise en place de basalte. Et notamment, on va avoir les filons qui vont recouper les gabbros. Alors en bilan, vous connaissez peut-être cette figure-là qui est extraite de papier de la Gabriel et Cana, où on voit un équivalent, une représentation qui montre ce qu'est une dorsale lente, c'est-à-dire une zone où on a du manteau serpentinisé, quelques petits volcans basaltiques qui s'épanchent sous forme de piolava, et puis des corps gabbroïques, soit en profondeur, soit ramenés en surface à la faveur des phénomènes tectoniques. Et on peut replacer une partie des photos qu'on a vues sur ce bloc. Alors, il y a eu des travaux qui ont été refaits dans les années 2010 et qui utilisent des constats, des observations qui ont été faites au niveau des océans. Et qu'est-ce qu'on observe? Là, vous avez une cartographie du chenaillier avec les différentes unités. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la déformation. Parce que quand on regarde la déformation, on met en évidence trois générations de déformation. Une première génération de déformation, c'est celle qu'on a vue, c'est les faiseurs gabbro. Ces gabbros avec la foliation tectonique étirée, cette déformation ductile. Et puis quand vous regardez, il y a une deuxième unité, elle est cartographiée ici en violet, d'accord? Et cette déformation en violet, elle va affecter les gabbros et les dolérites. Et c'est ce qu'on appelle un détachement. Le détachement, c'est le pendant extensif du chevauchement, c'est-à-dire que c'est une faille normale de grande ampleur et relativement plane, d'accord? Donc ça affecte les gabbros, les serpentinites, pas les basaltes. Donc ça, c'est un argument pour dire qu'en termes de chronologie, gabbro et serpentinite étaient là, on a le détachement, et après on va voir les basaltes, et ce qu'on voit, c'est qu'on a, c'est les unités qui sont cartographiées ici en bleu, des failles normales à fort pendage qui vont affecter le bas de la série des basaltes, mais pas le sommet. D'accord? Donc ça veut dire que potentiellement, ici on a une tectonique extensive qui se fait un peu au début de la mise en place des basaltes, mais les basaltes vont venir sceller la déformation. Et le modèle qui est maintenant proposé pour le chenaillier, qui est quelque chose. Alors, je crois l'avoir vu quand même dans certains manuels un peu du secondaire, donc c'est quand même des choses qui se démocratisent de plus en plus. C'est ce modèle-là, c'est ce qu'on appelle le modèle de l'océanique corps complexe. Si vous regardez en bas à droite, vous avez une structure, qui est une structure qui vous montre un fond océanique. Par exemple, ces structures-là ont été mises en évidence, alors on a ça au niveau des fonds d'océan Indien, on peut trouver aussi au niveau de l'Atlantique. Vous avez ici une surface qui fait un dôme. Sur cette surface qui fait un dôme, vous avez des structures ici qui sont des stries, d'accord? Donc on est sur un plan de faille. L'axe de la dorsale est dans cette orientation-là. Les stries sont donc perpendiculaires. On a appelé ça des surfaces corruguées. Et ces surfaces corruguées sont interprétées comme étant un plan de faille. Et vous voyez que le plan de faille est relativement horizontal. Et donc, on a ici un détachement. C'est une structure qui peut faire 15 km de large. Hein. On a des gros qui font 50 km de large. Et donc, ce qu'on propose, c'est comme ici, on a un détachement et que les roches qu'on va observer ici sont des serpentinites. Eh bien, finalement, on interprète les premiers stades de ce qu'on voit au chenaillier comme étant le résultat de l'activité d'un détachement. Et donc, on interprète les premières phases du chenaillier comme étant le marqueur de ce qu'on appelle un océanique corps complexe. Donc, le chenaillier, serait d'une part un marqueur dorsal lent, mais avec une morphologie qui est celle d'un océanicore complexe. Et alors, je vais vous montrer après la structure. Donc, au départ, on met en place des gabbros en profondeur. Ces gabbros donc, sont mis en place ici. Ensuite, on a le jeu du détachement. Ce détachement va affecter les gabbros et les serpentinites, mais pas les basaltes puisqu'ils sont pas là. Et après, alors là, il y a des discussions. Je peux vous dire ce qui est dit. J'ai pas assez de recul critique pour proposer un argument. Ce qui est proposé, c'est que d'une part, le fait qu'on ait de la tectonique favorise les circulations de fluide froid et que ça refroidit globalement la structure de la croûte océanique, ce qui favorise, puisqu'on a des roches froides, une tectonique cassante et donc la mise en place de la troisième génération qui sont les failles normales de forpandage. Et ces failles normales de forpandage serviraient de conduit au magma qui remonte et ce seraient donc les zones qui alimentent les coulées basaltiques en surface. D'accord? Donc voilà, c'est les deux stades proposés pour le chenaillé. Un premier stade océanicore complexe quand on n'a que les gabbros et les serpentinites, puis ensuite un stade avec des failles de plus fort pendage et la dernière génération qui sont les failles normales qui ont guidé l'extrusion des laves. Donc vous voyez, par rapport à une image simple du chenaillé comme étant, ben voilà, on a en surface des basaltes et en profondeur des gabbros, déjà on voit qu'il faut introduire une complexité temporelle qui est un magmatisme qui se met en place en deux temps. Un premier stade avec majoritairement du plutonique, pas de volcanique, et puis un stade d'extrusion de lave volcanique, par définition, de lave en surface. D'accord? C'est bien un marqueur de dorsale, la géochimie le dit, mais plus complexe que un seul épisode de mise en place de magma. Alors, maintenant, je vais passer à l'ophiolite de Mans pour vous montrer un peu où est venue la discussion. Donc, l'ophiolite de Mans, c'est une des premières ophiolites qui a été étudiée, c'est celle qui a défini avec le fluide de Trudeau, qui a servi à définir la structure des ophiolites. On la voit très bien par satellite ici, c'est toute la partie qui est sombre. Par rapport au chenaillé où on avait 25 km² et 1 km d'épaisseur, ben là on est plutôt sur 500 km de long, 50 à 100 km de large. D'accord, donc c'est quand même quelque chose de beaucoup plus grande ampleur. Et elle est datée aux alentours du Crétacé. Alors qu'est-ce qu'on voit en nommant? Ben, on va retrouver des choses qui sont assez cohérentes avec notre interprétation de dorsale et avec ce qu'on voit au chenaillé, c'est du manteau. Du manteau qui va être recoupé par des filons de gabbros, d'accord? Puisque forcément, le manteau qui fond va donner les roches magmatiques qu'on a au-dessus. Donc, ce qu'on voit, c'est la trace de la remontée des roches magmatiques qui vont donner les gabbros et les basaltes. On va trouver un beau mot pétrologique, ce qu'on n'a pas au chenaillé. Hein. Au chenaillé, parfois, on interprète le mot comme étant le front de serpentinisation, d'accord? Ou en tout cas, on a un mot discontinu. Et là, on a vraiment une coupure péridotite gabbro. À la base, sous les gabbros, il y a une petite complexité qu'on va trouver une passée de dunite, puisqu'on suppose que quand les magmas basaltiques vont remonter, ils vont réagir avec les harburgites, dissoudre les orthopyroxènes, et donc il va rester juste une péridotite qui contient que de l'olivine. Et donc, on a des dunites réactionnelles qui sont à la base de la croûte océanique au sommet du manteau. On va trouver ce qu'on n'a pas au chenaillé, c'est-à-dire gabbrolité. Donc, on retrouve vraiment ces lits ici assez magnifiques. Et oui, quand on regarde le détail de ces lits, ben, on voit des choses comme du granoclasement, comme des structures un peu lentiformes, comme des plis. Donc là, on a vraiment des marqueurs d'une tectonique d'agitation au sein de la chambre magmatique, des structures de ravinement du chenal. Donc, on voit vraiment la dynamique de la chambre magmatique. Au-dessus, on va trouver des gabbrolités, enfin, des gabbroisotropes. On va trouver des roches un peu plus différenciées comme des diorites et on va retrouver des plagiogranites. Avec toujours la question de savoir est-ce que c'est des roches acides du sommet de chambre magmatique ou est-ce qu'on est sur de la refusion de roches type basalte ou type gabbro. On aura un magnifique complexe filonien où là on voit vraiment la série de filons verticaux qui ont été basculés. On voit même que ces complexes filoniens sont affectés par de la tectonique extensive. Là on a une faille mistrique à petite échelle, donc on voit qu'on est dans un contexte d'extension. Et puis, on va trouver toutes les séries basaltiques avec les beaux épanchements de pilolava, où on voit bien ici la forme de tube, l'écoulement sous forte pression. Et puis, on a les séries sédimentaires avec notamment des choses qui sont interprétées comme étant soit des chapeaux de fer ou le résultat de circulation hydrothermale, d'accord, soit le résultat de fumée hydrothermale avec des encroûtements de manganèse qu'on peut appeler les thermos. Alors, quand on regarde dans le détail, si je m'étais limité à ça, finalement, je suis bien pour illustrer ma structure de lithosphère océanique formée d'une dorsale rapide. J'ai bien plus de côtes océaniques, j'ai tous les corps qui m'intéressent depuis le début, basalte, complexe filonien, gabbro. Mais quand on fait une étude de terrain, ce qu'on voit, c'est que dans les unités, il y a des phases de magma qui se recoupent. Là, les gabbrolités, on voit un film qui recoupe. Idem ici. Pareil là, on voit une phase qui recoupe. Et puis là, on a du mélange de magma. On voit qu'il y a différentes phases de magmatisme. Et ces phases de magmatisme, eh bien, ce qui est intéressant, alors ici, vous avez un log lithologique de l'ophiolite de Mans. Donc finalement, si je me limitais à ce qu'on voit sur la partie droite, je suis quasiment dans ce que je connais de la lithosphère océanique formée d'orques rapides. Par contre, quand je rajoute cette partie-là, vous voyez qu'il y a une phase de magma qui affecte, qui recoupe l'ensemble, où on va avoir des gabbros, des tonalites, donc des roches un peu acides riches en sodium, et puis des laves basaltiques à andésitiques, et ces laves-là qu'on chimique alco-alcalines. Et ça pose question. Ça pose d'autant plus question que quand on date ces deux phases de magmatisme, ce qu'on voit, c'est que la première phase, celle pour laquelle on aurait une interprétation classique comme une dorsale, enfin, comme une lithosphère océanique formée au niveau d'une dorsale rapide, elle donne un âge qui est daté aux alentours de 96 à 95 millions d'années. La deuxième phase, celle qu'on aurait tendance à associer à de la subduction, là, on trouve un âge de, en gros, 95 millions d'années. Ça veut dire que ces deux phases sont extrêmement proches dans le temps. Et ça a posé problème à personne qui travaille là-dessus, parce que dire, bon, quand même, ça voudrait dire qu'il faut qu'on mette en place une lithosphère océanique au niveau d'une dorsale aux alentours de 96 millions d'années, et que de suite après, on commence à entrer en subduction. Et en fait, les gens qui travaillent là-dessus proposent plutôt d'autres phénomènes. Ils proposent que ce qu'on voit ici, c'est deux phases de magmatisme, mais non pas une dorsale et une subduction, mais plutôt la chose suivante. En fait, alors je vais d'abord prendre cette partie-là. En fait, ce qu'on voit, ça, c'est les dessins qu'on peut trouver dans l'article de Philippe Agar sur l'abduction. Quand la subduction s'initie ici, vous allez avoir un contre-courant mantellique qui va remonter. Ce contre-courant mantellique, avec de l'extension qu'on peut avoir ici au-dessus de ce qui va être la future subduction, va s'accompagner donc d'une décompression adiabatique d'un manteau qui va être un manteau asthénosphérique comme on a classiquement sur la lithosphère océanique. Ça va former un ensemble de roches qui peuvent avoir une affinité de type, enfin une structure et quelque chose qui ressemble à une affinité de type dorsale. Et ensuite, la subduction va se poursuivre. Et quand la subduction va se poursuivre, bah, qu'est-ce qui va se passer? La subduction se poursuit, on enfouit les roches. Et quand on enfouit les roches, bah, on atteint les profondeurs des faciès métamorphiques. On a le métamorphisme, et quand on a le métamorphisme, on a des hydratations. Et à partir de ce moment-là, on injecte de l'eau dans le manteau qui fond. Et quand on injecte de l'eau dans le manteau qui fond, on passe à des signatures géochimiques, qui sont plus des signatures géochimiques de type morbe, mais qui sont des signatures géochimiques calco-alcalines. Et donc l'ophiolite de Mans ne serait pas le résultat de la mise en place au niveau d'une dorsale rapide, mais serait le résultat du marqueur d'abord de roche qu'on pourrait appeler de l'avant-arc au niveau d'une subduction naissante, puis la deuxième phase, ce serait le marqueur du magmatisme associé à la subduction qui se poursuit. Donc voilà, le côté Oman égale lithosphère océanique formée au niveau d'une dorsale rapide, bah a priori ça marche pas. Alors, tout de même, pour quand même pas tout casser, parce que moi quand j'ai découvert ça c'était beaucoup pour moi. En fait, il y a quand même des cas où on va trouver ces deux phases de magmatisme, mais avec des écarts de temps très grands. Et donc dans ce cas-là, on peut supposer, je crois par exemple en Iran ou en Albanie, ou en Arménie, si je dis pas de bêtises, on a bien des choses qui seraient purement de l'océan, et après marqué par de l'environnement de subduction. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on peut dire sur l'homme. Et donc ça m'amène à la classification un peu des ophiolites, qui est un peu une classification qui change de celle des hotlotes, qui est une classification en deux temps. Alors, ce schéma est assez compliqué, mais je vais le découper en deux. En fait, on suppose qu'il y a des ophiolites qui sont des ophiolites non liées à des zones de subduction, et des ophiolites liées aux zones de subduction. Alors attention, les schémas sont assez compliqués, et surtout, méfiez-vous des échelles qui sont différentes. Vous voyez ici 0,5 km, 15 km, 0,5 km. Dans ces ophiolites-là, ben on va trouver des ophiolites qui reflètent des pieds de marche passive. On va trouver celles qui sont pour nous les plus intéressantes, et le chenaillier en fait partie. Ouf, tant mieux, on peut parler de dorsale et c'est très bien, on peut continuer à enseigner ça. Qui est une ophiolite, ben, c'est du type lotte, hein, il n'y a pas de problème, un analogue de dorsale lente. Et puis on va avoir des choses, alors là vous voyez, hein, 15 km. C'est-à-dire des ophiolites qui montrent une croûte océanique qui va pouvoir faire 30 km d'épaisseur. Il y a un exemple. Prenez tout ce qui va être le plateau océanique des Caraïbes qui est dilacéré sur un certain nombre d'îles. Et là, vous allez trouver des reliques de roches, comme des roches un peu particulières qu'on appelle les comatites, que normalement on trouve que à l'Archéen. mais qu'on peut trouver dans ces plateaux océaniques, en tout cas qui ont été trouvés à l'île de la Gorgone pour le plateau des Caraïbes. Voilà, donc là, bah, on a des choses qui ressemblent aux lotes, on a aussi des choses qui ressemblent aux hôtes, donc il y a des ophiolites qui sont bien des analogues de dorsales lentes et de dorsales rapides, pas de problème. Et puis, l'autre type d'ophiolite, bah, c'est les ophiolites formés en contexte de suprasubduction. Et là, on va avoir deux types d'ophiolites. Des ophiolites qui vont refléter un arc volcanique, on va trouver tout le cortège volcanique classique, les andésites et autres, qui sont les témoins de l'arc volcanique, de la subduction océan-océan, par exemple en Oural. Et puis, on va trouver des ophiolites, alors qui sont ici, c'est marqué avant-arc, mais c'est avant-arc ou arrière-arc, et qui, elles, témoignent d'une mise en place de roches en périphérie d'une subduction. Et ça, c'est comme ça maintenant qu'on interprète l'ophiolite dômant, notamment en faisant des comparaisons avec un environnement actuel qui est la zone Izu-Bonin, Fosse des Mariannes. Voilà. Donc ici, bah dans ce qu'on appelle les hôtes, bah il y a des choses qui sont pas vraiment de la dorsale. Alors, bon, ça, je vais vous en faire grâce, mais très rapidement. Alors, il y a des arguments qui sont vraiment extrêmement puissants, c'est les arguments géochimiques. Et une manière de classer ça, c'est d'utiliser des éléments géochimiques qui ne sont pas affectés ou très peu par les circulations de fluides. Et donc, il y a toute une branche de la géochimie qui s'est développée pour étudier et faire des classifications. Et alors, bon, comme toujours en géochimie, c'est un peu compliqué, mais en fait, on arrive à distinguer les différentes ophiolites avec des rapports classiques, thorium, sphéry, terbium. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on arrive à cette classification avec la géochimie. Alors, voici donc la nouvelle définition qu'on peut donner d'ophiolite. Finalement, elle n'a pas tant changé que ça, si ce n'est qu'elle va nuancer un peu la formation. Une ophiolite, un fragment halochtone, c'est-à-dire transporté de manteaux supérieurs et de croûtes océaniques, transporté lors de la convergence des plaques. Elle peut comporter des péridotites du complexe filonien et des unités de type basalte ou gabbro. Certaines unités peuvent manquer. Le processus de mise en place débute avec le déplacement de la lithosphère océanique, d'accord, et se termine avec son incorporation dans les chaînes de montagne. Les ophiolites sont souvent mises en place sur une marge continentale passive, souvent, ou un arc insulaire. Et les structures reflètent la formation par des interactions entre différents épisodes de fusion partielle, entre des processus de différenciation magmatique, les taux et la géométrie d'accrétion, donc plein de processus relativement complexes. Et quelques ophiolites sont surmontées de sédiments pélagiques et de sédiments hydrothermaux riches en fer et magnésium. Et certaines, ce n'est pas le cas du Chenaillet, vont présenter une semelle métamorphique qui vont montrer les processus de transport lors de la mise en place de l'ophiolite. Et quand on cartographie actuellement la position des ophiolites, et bien ce qu'on voit, c'est qu'elles correspondent aux grandes ceintures orogéniques actuelles ou anciennes. D'accord? Donc là, vous avez par exemple les ophiolites alpines. Et vous voyez dans les ophiolites alpines, et bien, quand on regarde, c'est majoritairement ici des ophiolites de suprasubduction. D'accord? On a des ophiolites au niveau des Caraïbes. Bah ici, c'est plutôt un plateau océanique qui a été démembré. Donc, on arrive à avoir une complexité dans les contextes qui sont enregistrés. Et vraiment pour finir, je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps, je vais pas regarder la montre, mais il y a des. Alors, je peux vous dire ce que j'ai lu, mais vraiment, j'ai aucun recul critique là-dessus, c'est que les gens ont travaillé sur des bases de données d'ophiolites et ont analysé toutes les roches qui rencontraient des ophiolites au cours du temps. Avec déjà une question, c'est de savoir, c'est est-ce qu'on a des ophiolites dans les temps anciens? Parce que si on a des ophiolites et du complexe filonien, c'est qu'on a de la tectonique, enfin quelque chose qui peut ressembler à la tectonique des plaques. Donc on trouve du complexe filonien notamment dans les ophiolites à Issoire. Donc on a par exemple des ophiolites datées, alors, je ne sais plus où je l'ai mis, oui ici c'est là, qui sont datées à 3,8 milliards d'années. Donc c'est-à-dire que déjà à cette époque-là, on a des phénomènes extensifs. Et puis il y a eu un travail qui a été fait pour caractériser les quantités des différentes proportions d'ophiolites. Et les gens qui travaillent là-dessus montrent que en gros, quand on regarde les ophiolites archéennes, eh bien les ophiolites formées en contexte de subduction, c'est 95%. Alors qu'actuellement, on est plutôt sur 75% des ophiolites. Et donc, on se questionne de dire, mais comment se fait-il qu'à l'Archéen, on a beaucoup plus de types d'ophiolites que maintenant? Et ce qui est proposé, alors je vais vous montrer un petit schéma, c'est que ça pourrait refléter les styles tectoniques qu'on a à l'Archéen et maintenant. À l'Archéen, bah, on a une convection qui est beaucoup plus vigoureuse, peut-être plus de microplaques, plus de subduction. Et donc, comme on a plus de subduction et qu'on peut avoir aussi des épaississements par l'épanache, on a plein de zones épaissies qui viennent s'accréter les unes aux autres. D'accord, former des protocontinents, et donc on aurait à l'Archéen une tectonique qui serait, ils appellent ça accrétionnaire orogène. Alors que maintenant, on a beaucoup plus de continents, donc on a toujours des subductions, mais on a toujours un petit peu d'accrétion. Mais comme on a des plus grands continents, eh bien on a pu avoir une transition vers un style orogénique qui ressemble plus à ce qu'on a maintenant, avec un cycle orogénique de fragmentation de ces grands continents, mise en place d'un océan, subduction et collision. Donc à partir de ça, on arrive à montrer que potentiellement, bah, on a des choses qui ressemblent à de la tectonique des plaques anciennement et une évolution au cours du temps. Et là, on peut rejoindre, par exemple, des choses que Greg nous a présentées dans la conférence où on voit que la géodynamique interne subit des transitions au cours de l'histoire et que ça a une influence sur plein plein d'enveloppes. Alors, en bilan, je sais pas ce qui est intéressant, enfin, je sais pas ce qui est intéressant à retenir. J'ai une petite idée, mais disons que par rapport à l'idée de hot lot ou l'idée qu'une ophiolite, c'est une portion de lithosphère océanique formée au niveau d'une dorsale, en fait, voilà. Non, dans la pratique, on peut enregistrer plein de contextes, de la subduction avant-arc, arrière-arc, ou de la dorsale, ou du panache mantellique. Et même si on n'a plus... Alors, on peut avoir ces aspects purs dorsales, mais finalement, c'est quand même intéressant de voir qu'on peut avoir une évolution temporelle de tous ces contextes-là, étudier plein d'anciens contextes, plein d'anciens arcs, plein d'anciennes zones arrière-arc, et que c'est aussi un peu un reflet pour caractériser un processus qu'on comprend mal, qui est le processus d'obduction. D'accord? Puisque quand on voit l'ophiolite de membre, on est capable de caractériser le magmatisme qui s'est mis en place lors de la subduction. Et alors je termine très rapidement des choses qui ont été un peu abordées. Ces ophiolites, elles ont une autre importance. Il y a des gens qui étudient notamment dans les ophiolites les traces d'altération, et qui seraient potentiellement des traces d'altération biogène, pour savoir quel type de vie on aurait pu avoir et à quelle époque on aurait pu avoir déjà des traces de vie dans les ophiolites. Et puis les ophiolites on le sait, hein, ont été célèbres historiquement parce que, par exemple, l'ophiolite de Chypre a été une zone beaucoup exploitée pour les minéralisations. Ces ophiolites-là, elles ont des paléofumeurs noirs. Ces fumeurs noirs sont très riches en minéraux hydrothermaux qui contiennent des métaux, encore du cuivre, du zinc, du fer. Et donc, elles ont été abondamment exploitées. Et voilà, là, l'actualité nous rappelle que les ophiolites ne suffisent pas et que peut-être bientôt... Les fonds océaniques seront peut-être eux aussi exploités pour aller chercher tout ça. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis preneur de questions si vous en avez. J'espère que mes étudiantes et mes étudiants n'en veulent pas trop de se rendre compte que j'ai raconté n'importe quoi pendant X années. Est-ce que vous avez des questions? Mathéo, oui?
Actuellement, sur 75% des ophiolites qui sont dues au contact de dorsale. Est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait se produire dans le futur? Est-ce qu'on va continuer à s'éliminer ou est-ce qu'on est plutôt de revenir vers les 95%?
Alors la question, c'est on passe de 80, enfin, les ophiolites archéennes montrent 95% d'ophiolites de suprasubduction. Actuellement, on est plutôt à 75% dans le phanérozoïque. Et la question, c'est de voir l'évolution temporelle. En fait, ce qu'on voit ici, c'est que globalement, alors, c'est une réponse très large, mais ce qu'on voit, c'est le résultat du refroidissement de la Terre, d'accord, l'évolution des roches qu'on va observer. On n'a pas le même type de roches magmatiques, monsieur Gallès en a parlé au début de sa conférence. Donc, a priori, la Terre, elle va faire que se refroidir. Donc, potentiellement, on peut supposer que ça va affecter la convection et que la convection sera peut-être moins vigoureuse. Donc, voilà, c'est peut-être là-dessus que ça va jouer. De là, vous donner une quantification de l'évolution, ça je saurais pas dire. Mais il y a peu de chances qu'on revienne à quelque chose qui marque un style plus vigoureux, plein de microplaques convectives. Parce que ça, c'est interprété comme un marqueur d'un fort flux de chaleur et de sa dissipation.
Du coup, j'ai une autre question qui suit ça par rapport à l'enseignement. Est-ce que cette notion, elle va être intégrée au nouveau programme à équivalence avec celle des dorsales?
La notion d'ophiolite? Alors la question, est-ce que cette notion-là va être intégrée au programme? Je ne fais pas les programmes, donc je ne sais pas. Actuellement, la notion d'ophiolite, programme de terminal spécialité, pour discuter du fait que dans les chaînes de montagne, on a des reliques d'anciens océans, et de manière un peu à discuter la succession temporelle des contextes qui ont été vus en première, dorsale, subduction, collision. Le terme hot lot n'est pas au programme de terminal. D'accord? Mais une année, le sujet du CAPES, c'était les ophiolites. Et là, a priori, on attendait la dichotomie hot lot. Donc, la question, la question est vraiment intéressante et pas simple. C'est que, si j'ai une réponse à vous donner, c'est non. Oui, une des motivations des conférences d'aujourd'hui, c'était aussi de dire, en fait, on va peut-être montrer des choses qui sont écrits dans les programmes, mais il y a une évolution, quoi. Donc, c'était un peu de passer un peu de la science différente. Et donc, forcément, on est une science naturelle, plus compliquée par rapport à d'autres sciences. Et oui, forcément, les choses, elles évoluent, elles sont intégrées, et après, ça dépend des thématiques. Donc, est-ce que cette notion-là est fondamentale? Je sais pas. Est-ce qu'elle va être intégrée? Je sais pas. En tout cas, voilà, maintenant, ce côté hot lot, ben, il est un petit peu à nuancer. Donc, il y a plein de choses qui peuvent faire changer les articles de vulgarisation. C'est pour ça que la lecture de Planète Terre vraiment est assez importante parce que pas mal de chercheurs écrivent dans Planète Terre et donc là, on voit un peu la science comme elle se fait, un peu dépasseur. Et puis après, il y a un autre levier qui peut être important mais qui est un peu compliqué, c'est les concours d'enseignement. C'est-à-dire que le jour où à la grecque, un jury posera un sujet sur les ophiolites et mettra ça comme document, ça forcera tous les formateurs à aller creuser un petit peu là-dedans et ça peut être un autre levier, mais qui est très limité. Puis on n'est pas non plus sur une notion qui est très, enfin, c'est pas fondamental, quoi. C'est pas, on peut vivre avec juste ophiolite et sans rentrer hotlot ou suprasubduction. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Greg, oui.
Question sur se montrer des restes dans les ophiolites de fumeurs noirs, d'accord, des minéraux hydrothermaux.
Oui.
Est-ce que tu as des exemples, est-ce que ça existe, ça a été trouvé, cherché, des ophiolites dans lesquelles, avec des certaines utilisations, on a trouvé des restes de fumeurs blancs, enfin, les situations très basiques.
Alors là, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée comme ça, si je réfléchis, il faudrait que je regarde. C'est une bonne question. Est-ce qu'on a des restes de fumeurs blancs dans les ophiolites? Comme ça, je.
Effectivement, c'est politique, c'est le genre de.
Ah, ça, je ne sais pas du tout. Ouais, bah, c'est vrai qu'on parle souvent des minéralisations en cuivre, mais ouais. Mais bonne question, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas s'il y a des restes de fumeur blanc. Il y a des sulfates souvent. Est-ce que c'est un peu des
Peut-être aussi.
carbonates? Est-ce que ça résiste bien à l'altération, érosion? Mais là, ouais, je regarderai. C'est une bonne question.
Et alors, pour tes modèles, enfin, vraiment de roches d'affinité, subduction, enfin, quelques alcalines. Qui viennent juste après une dorsale plutôt classique. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des modèles qui ressembleraient à ce qu'on a à l'heure actuelle du sud, de l'Amérique du Sud, avec une dorsale qui s'exprime et qui a l'air de passer en subduction juste après?
Oui, alors dans les, alors la question c'est est-ce que dans ces modèles-là s'intègrent, si j'ai bien compris, les subductions de dorsale, comme la ride de Teitao par exemple. Alors oui, alors je vais passer un peu vite, mais je sais que dans les diagrammes géochimiques par exemple, c'est ce qui est utilisé ici, elle est là. Donc c'est des choses qui sont intégrées, la complexité. Alors d'un papier à l'autre, la diversité du découpage des ophiolites liées aux subductions est pas toujours les mêmes, pas toujours évident de s'y retrouver. Mais oui, il y a des choses qui sont intégrées là-dessus et ils le classent dans les ophiolites de suprasubduction. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Gaëtan? Oui.
Est-ce que c'est des ophiolites de dorsale rapide par rapport aux références pour l'entité de dorsale rapide?
Alors, je ne sais pas si c'est un dorsal rapide. Ce que je sais, c'est que il y a des ophiolites qui sont des ophiolites vraiment interprétées comme dorsal rapide, ce qu'on appelle les ophiolites de type alors MOR comme mid-oceanic ridge, ça existe quoi. Est-ce que celles-là sont des ophiolites associées à de la mise en place d'une dorsale rapide, je ne saurais pas te dire. Mais en tout cas, ça existe. C'est-à-dire que hot lot, c'est quand même des choses qu'on pourrait retrouver quoi. Mais il y a des choses qu'on a appelées hot qui sont pas de la mid-oceanic mise en place d'une dorsale classique. Julien, ouais.
Du coup, en termes purement pratico-pratiques d'enseignement, est-ce qu'il y a des objets qui permettraient d'étudier la structure et la dynamique des dorsales et de la lithosphère océanique de manière générale qui fonctionnent mieux qu'utiliser au banc, pas du tout approprié?
Alors, d'un point de vue enseignement, est-ce qu'il y a des objets qui sont mieux adaptés que l'ophiolite de Mans pour enseigner tout ça? Alors, je vais répondre ce que tu vois. Moi, j'enseigne pas en secondaire, donc je ne saurais pas dire précisément ce qui se fait, mais de ce que je comprends du programme, la dichotomie hot-lot, elle est vraiment pas du tout au programme. On va juste dire, éventuellement, on peut prendre l'exemple de l'ophiolite de Mans. Donc, il y a une ophiolite, donc il y avait un ancien océan. Ça restera vrai. C'est juste que c'est pas de l'océan mis en place au niveau d'une dorsale rapide. Mais voilà, on va pas jusqu'à ce niveau de détail. Par contre,
Pourquoi d'enseignement, on peut poser cette question-là.
ok.
C'est pas enseigné.
Voilà, donc dans l'enseignement non, mais après voilà dans les concours d'enseignement. Mais moi je me pose toujours la question quand je fais les cours sur la lithosphère océanique et les ophiolites de savoir qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas. Et dans la pratique, c'est vrai que quand on regarde les données qui, enfin voilà, c'est quand même, c'est pas les choses les plus faciles et les plus gentilles Parce que même quand on comprend la géochimie, c'est pas si simple que ça dans le détail. Il y a plein de questions dans le chat. Voilà. Alors, donc l'obduction n'est qu'une théorie, une hypothèse. Alors, non, non, ça c'est clairement un... Alors, l'obduction n'est pas une théorie, une hypothèse, c'est bien un processus. Et vraiment, la meilleure bibliographie, c'est l'article de Fini Pagar. Là, il y a vraiment une synthèse en trois articles de tout ce qu'on sait et de comment ça se produit. C'est clairement il y a quand même un processus dans lequel on transporte ici une nappe, qui est une nappe océanique, sur un continent. Et ce qu'on voit, c'est que ce processus est lié dans un premier temps à la subduction de l'océan. Et quand l'océan a fini de subducter, c'est lié à la subduction du continent, donc à la subduction continentale. Donc ça, c'est pas du tout un processus hypothétique. En revanche, ce qui est peut-être un peu plus discuté, c'est l'application du terme obduction au chenil. Parce que dans le cas de l'ophiolite de Mans, on a vraiment une grande nappe sur laquelle il y a bien une semelle qui montre de la déformation et du transport. Au niveau du chenaillé, on a une petite nappe. Et même dans le chenaillé, alors, il y a des choses, il y a des papiers, bon, c'est pareil, c'est des choses de spécialistes, mais certains papiers auraient tendance à dire que le chenaillé était un peu subducté quand même. Il y a d'autres gens qui disent non, ça n'a pas été subducté, mais ça a quand même été un peu enfoui. Donc voilà, en fait, la question c'est qu'est-ce qu'on met derrière ce terme d'obduction ? C'est un processus qui existe, c'est un processus de convergence, il n'y a pas de problème, l'ophiolite de Mans, voilà, on a vraiment le dessin et il n'y a pas de souci. Est-ce que ce mécanisme qui est décrit pour l'ophiolite de Mans se généralise à des choses comme le chenaillé ? Je suis pas sûr. Mais vraiment, lisez l'article de Philippe Agard sur Planète Terre, c'est vraiment voilà, c'est vraiment hyper synthétique et c'est toute l'école des Parisiens qui ont beaucoup travaillé sur Mans. Et c'est vraiment, vraiment riche. Alors, est-ce que les modèles ont été réalisés en laboratoire pour reproduire la formation de l'ophiolite de Mans? Donc, du coup, alors, c'est en gros, c'est est-ce qu'il y a de la modélisation analogique d'obduction? Ou alors, analogique, je sais pas, mais ça, je pense que Maxime saurait mieux que moi. Obduction, ouais, ça te dit rien. Moi, ça me dit rien. Numérique, oui, clairement. Numérique, oui, il y a pas mal de gens qui ont travaillé, qui reproduisent les conditions métamorphiques, qui essayent de reproduire les chemins pression, température, temps, en regardant et les unités de la plaque chevauchante, les unités de la plaque chevauchée, pour comparer aux données de terrain. Et pareil, vous le retrouverez dans l'article de Philippe Agard. Donc ouais, ça c'est extrêmement étudié, vraiment, toute l'équipe qui a travaillé sur Le Mans, Philippe Agard, vraiment, ont proposé des choses qui sont assez robustes, et en tout cas, qui, je trouve, sont assez compréhensibles. Il y a des choses un peu techniques quand même, mais l'article est vraiment super. Pourriez-vous expliquer comment se forment les dolérites et où on les trouve dans le monde? Sont-elles des indicateurs? Alors, une dolérite, c'est purement pétrologique. C'est-à-dire qu'une dolérite, c'est en gros l'intermédiaire entre un basalte et un gabbro. Si je regarde dans la main mince, je vais voir plein de petits minéraux, plein de microlites, comme je verrais un peu dans les basaltes, enfin les basaltes qui n'ont pas de phénocristaux. En revanche, ils vont être tous jointifs, comme les minéraux des gabbros. On appelle ça une texture micro-grenue. Et ça, bah, ce qu'on interprète comme étant un refroidissement, une profondeur intermédiaire entre les basaltes et les gabbros. Donc ces dolérites, on les trouve dans le complexe filonien, mais ces dolérites, c'est ce qu'on va trouver en filon un peu partout. Vous allez en Bretagne, il y a plein de filons de dolérites, c'est pas du tout des domaines océaniques, c'est juste du filon qui a refroidi un petit peu en profondeur. Donc c'est vraiment classique, sur pas mal de cardiologie, vous verrez des filons de dolérites, si je cherche dans le coin... Bon... Ouais, en Bretagne, c'est bien. Non, en Bretagne, dans les Pyrénées, vous trouverez des filons. Vous allez en trouver des filons aussi dans le Massif central. Voilà, on appellera ça de la dolérite, mais c'est purement un nom pétrologique. On appelle ça aussi les diabases parfois dans certains papiers. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions en distanciel ou dans la salle ou... Thibaut, oui.
Je te demandais comment on définissait vraiment un oscillateur complexe, si c'était par la lithologie un peu des roches qu'on va retrouver à ce moment-là, et aussi par les épisodes de déformation qui ont été caractéristiques justement de ce complexe.
Alors, comment on définit un océanique corps complexe? Un océanique corps complexe, ça se définit vraiment purement morphologiquement. En fait, ce qu'on a vu, c'est des dômes en domaine océanique avec ces surfaces corruguées qui étaient les plans de faille. Et on a appelé ça océanique corps complexe en référence à ce qu'on avait défini sur les continents, qui étaient les métamorphiques corps complexes, ces dômes de granit et de gneiss qui témoignent des structures de distension post-orogénique. Donc ce qui va décrire ça, c'est vraiment la morphologie et le fait qu'on ait une technique extensive. Mais voilà, ça dans beaucoup de manuels du secondaire, il me semble avoir vu. Et puis, pareil, dans les travaux qui sont assez, je trouve, assez riches pour les enseignantes et enseignants, le BRGM, il y a 3-4 ans, a fait un géochronique spécial les sciences de la Terre au lycée, dans lequel il y a pas mal d'articles de référence, et il y en a un sur les différentes morphologies de dorsales, et où maintenant, voilà, on montre très bien, et on peut très bien enseigner qu'il y a des dorsales dans lesquelles magmatisme, vraiment, il n'y en a quasiment pas, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment cet aspect morphologie, et l'océanique corps complexe, bah, pareil, c'est une morphologie qui peut être assez caractéristique de dorsales ultra lentes. Voilà. Lentes, ultra lentes. Il n'y a pas que le rift avec la dépression centrale dans les dorsales lentes. On a aussi des morphologies de type océanique corps complexe.
Juste, alors, pour les, comment dire, mal nommés plagiogranites, j'ai cru comprendre qu'en Islande, tu avais des granites liés typiquement au fonctionnement et de la dorsale et du point chaud. D'un point de vue des terres rares, en fait, est-ce que tu arrives à différencier les modèles, tuner de la flotte pour que ça fonde, ou c'est des différenciations?
Alors, ça, je ne saurais pas te dire. Je crois que dans les modèles qui sont proposés pour le océanique corps complexe du Chenaillet, le plagiogranite, on relie vraiment à de la refusion de gabbro. Dans le détail, je ne saurais pas, mais par contre, je sais que j'ai le papier avec la review sur tout, enfin, Roche-Felsig dans les ophiolites, ça, je peux te l'envoyer sans problème. Ouais, je n'ai pas creusé cet aspect de géochimie. Je suis pas sûr que ce soit tranché. Mais en tout cas, il y a vraiment une revue qui a été faite sur les roches felsiques dans les ophiolites et leur interprétation et leurs caractéristiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Beaucoup de remerciements sur le chat. Il y en a qui souhaitent avoir une dernière explication sur les dolérites. Est-ce que c'est ici du même magma que vos brûles d'ailleurs?
Ah, je crois que je connais la personne qui est connectée. les dolérites sont issus. Oui, oui, c'est le même magma que les gabbros et les basaltes. C'est la même géochimie. C'est vraiment. Enfin, rappelez-vous, pour les étudiantes et les étudiants que en L2, j'ai dû vous montrer la cristallisation de la vanilline. Et vous l'avez peut-être fait dans le secondaire. Bah, ce serait la même chose, quoi. La vitesse de refroidissement qui contrôle la texture. Bien écoutez, s'il n'y a plus de questions ni dans la salle ni à l'extérieur, merci beaucoup. Donc merci à celles et ceux qui sont venus en présentiel, même si certains d'entre vous n'avaient pas le choix. merci aussi à celles et ceux qui étaient en distanciel. Encore merci à Loïc Maton d'avoir transféré toutes les informations. Ouais, encore merci beaucoup à Grégoire Gallès et à Maxime Henriquet qui ont gentiment accepté de faire ces conférences. Encore merci à Camille Souchon qui a accepté de gérer toute la logistique, grâce à qui j'ai une tablette et à qui on a pu tout tester. Donc vraiment merci à toutes et à tous. Et pour celles et ceux d'entre vous qui sont disponibles, 2 conférences la semaine prochaine pour prolonger les discussions. Une de Cyril Langlois sur la définition d'anthropocène et les controverses qu'il y a eu autour de cette définition-là, et une autre de Vincent Godard sur les isotopes cosmogéniques et la dynamique des surfaces continentales. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer des mails, et puis normalement, tout est enregistré, donc vous pourrez avoir accès à ça. Encore merci à toutes et à tous, bonne soirée, au revoir.